Eh bien, bonjour et bienvenue à cette rencontre avec Léonore De Recondo et Jean-Baptiste Andréa. Je ne suis pas Jean-Baptiste Andréa, mais il va être avec nous quand même en visio, puisque cette rencontre va quand même être un dialogue, une conversation autour de vos romans. Voilà, vous le voyez, Jean-Baptiste, à l'écran, autour de deux romans dans lesquels vos personnages que l'on rencontre dès leur enfance, voire dès leur naissance, vont s'émanciper du destin qu'ils auraient dû avoir. Et le hasard fait que, si on les suit en partie au même âge, eh bien, c'est aussi en Italie qu'on les rencontre, Italie du Nord, région de Turin pour l'un, région de Venise pour l'autre. Et ce sont des histoires où l'art a une place centrale dans ces destins. La sculpture pour vous, Jean-Baptiste Andréa, et la musique pour vous, Léonore De Recondo. Léonore, vous êtes violoniste et romancière et vous avez récemment fait paraître ce livre, Le Grand Feu, votre neuvième livre. Il est paru aux éditions Grasset et il réunit justement la musique et la littérature avec un personnage que l'on rencontre au début du XVIIIe siècle. Elle s'appelle Ilaria, on est à Venise, et cet enfant va être confié à une institution religieuse, un hospice qui s'appelle La Pietà, où on y recueille des enfants abandonnés, notamment pour les dédier à la musique, où on les confie à cette institution, où parfois certaines ne viennent juste que pour la musique, parce qu'Ilaria a des parents tout de même, qu'elle voit de temps à autre. Et puisque vous racontez, c'est une histoire de coup de foudre, hein, le grand feu, c'est vraiment la passion, les passions qui vont s'ajouter les unes aux autres, passion pour celles qui vont devenir ses amies, celles qu'elle aurait aimé qu'il devienne aussi son ami, mais qui n'a un peu rien à faire d'elle. Passion aussi pour la musique, pour le violon, et puis passion amoureuse et passion pour Venise, qu'elle connaît peu, puisqu'elle est dans une institution qui est fermée. Et c'est un roman que vous avez choisi, une fiction que vous avez choisi de placer dans un cadre historique très précis. J'ai dit, ça commence en 1699, c'est le début du XVIIIe siècle que vous racontez, avec cette institution qui a vraiment existé. Et au moment de votre livre, un compositeur vient y travailler pour enseigner, pour jouer. Ça tombe bien, il a la manœuvre à volonté, donc il peut faire plein de partitions et puis leur proposer de jouer. Et ce compositeur, il s'appelle Antonio Vivaldi, que vous connaissez probablement tous pour les quatre saisons, mais pas que, un des compositeurs majeurs de la musique baroque. Est-ce que c'était justement l'un des points d'entrée de votre imaginaire, Léonore De Recondo, que doit le grand feu à votre passion pour Vivaldi?
Oui, évidemment, en tant que violoniste, Vivaldi est un incontournable du répertoire et aussi un incontournable de la musique qu'on connaît, de la musique baroque et de l'Italie et de l'école vénitienne du violon. Donc oui, c'est un incontournable, mais il n'était quand même pas le cœur du roman. Pour moi, vraiment, le cœur du roman, c'était cet enfant dans cette institution, comment elle y grandit, comment elle s'émancipe, comment elle apprend à jouer du violon. Et donc Vivaldi, il est là, évidemment, parce que c'est cette présence, et comme je savais qu'il était professeur au début du XVIIIe siècle, dans ces années 10 du XVIIIe siècle, j'ai aimé le placer là et aussi montrer ce que pouvait être la vie d'un compositeur, vraiment les mains dans le cambouis des partitions et de la vie vénitienne de l'époque. Mais il est quand même voilà, il est là, mais c'est pas un roman sur lui. Je suis pas historienne, c'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était Ilaria dont vous avez parlé,
dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Jean-Baptiste Andréa, vous êtes l'auteur de ce roman Veiller sur elle, pour lequel vous avez reçu le prix Goncourt. Après la musique, dans votre précédent livre Des diables et des saints, avec un personnage qui jouait, alors lui c'était pas du violon mais c'était du piano dans les gares et les aéroports, c'est un autre art que vous êtes intéressé, la sculpture, et pour cela vous nous emmenez dans une abbaye. Voilà, j'avais pas pensé aussi qu'il y avait aussi ce point commun, l'institution religieuse, une abbaye. Alors plus récent, on est en 1986, quelques heures, quelques jours avant la mort de l'un de ses habitants, celui qui raconte ce qu'a été sa vie dans votre roman, Michelangelo Vitalini, qui a un parcours entre la France et surtout l'Italie, et qui, sur l'idée de sa mère, lui aussi, j'avais pas pensé à ça aussi, un autre point commun, eh bien, va devenir sculpteur, puisqu'elle va l'envoyer chez celui qu'il désigne comme son oncle dans la région de Turin en 1916. Alors, le problème, c'est quand il arrive à l'âge de 12 ans, c'est que son oncle n'a absolument rien à faire de lui, n'a pas envie de quelqu'un de petite taille pour aller tailler des gros morceaux de pierre. Mais c'est son histoire que vous racontez, celle de son ascension sociale, pas toujours simple, celle d'une relation à une femme, pas toujours simple, et la femme et la relation. Et comment est né ce roman qui a aussi la particularité de traverser une bonne partie de l'histoire du XXe siècle en Italie, parce que, je l'ai dit, on commence en 1916, donc pendant la guerre, et puis ensuite arrivent Mussolini et le fascisme. Quel était le point d'entrée entre cette histoire, votre relation à l'Italie, votre goût de la sculpture pour écrire ce roman ?
Bonjour à toutes et à tous. Salut Léonore. Désolé de ne pas pouvoir être là avec vous aujourd'hui physiquement. Le point d'entrée, c'est la vision que j'ai eue en fait de cette statue mystérieuse qui est cachée par le Vatican, mystère qui court tout au long du roman, et donc qui contenait, parce qu'on parle d'art, qui contenait en fait naturellement l'Italie. Moi, je ne suis pas particulièrement fan de sculpture. J'aime toute forme d'art, mais je dirais que je suis plutôt plus porté vers la musique ou la peinture. Mais je parle de la sculpture comme je parlerais de n'importe quel autre art, dans la mesure où, pour moi, les outils sont différents, mais l'intention est la même. Et donc, un jour, j'ai eu la vision de cette statue mystérieuse, de la raison du mystère. Je me suis dit, je vais construire un livre autour de ça. Je pense que ce qui m'appelait aussi là-dedans, c'est le fait que moi, je suis d'origine italienne, que je suis très frustré de ne pas avoir plus de rapport avec l'Italie, sachant que j'en ai quand même un peu parce que je vis vraiment très proche de l'Italie. Là, je suis à 60 km de la frontière. Mais à part ça, je n'ai pas pu apprendre la langue, je la baragouine, c'est assez frustrant. Et donc, j'ai un très fort désir d'Italie, en fait. Donc, ça m'appelait. On nous pose beaucoup de questions, pourquoi vous faites ci, comment vous faites ça, et je pense que Léonore sera d'accord quand je dis qu'il y a beaucoup d'instinctifs dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on ne s'assied pas en faisant une liste de choses intellectuelles qu'on a envie de faire. Il y a quelque chose de très sensuel et qui vient du cœur dans l'écriture, mais si je démonte mon processus, je crois que c'est cet appel de l'Italie qui était là. C'est pour ça que l'idée m'a parlé.
De quelle Italie ? Puis je poserai la même question à Léonore de Recondo dans un instant, entre l'Italie réelle, mais celle aussi, parce que c'est un peu cela que vous laissez sous-entendre, Jean-Baptiste, qui a cette fascination, donc peut-être aussi cette Italie imaginaire. Est-ce que c'est ça aussi que vous avez voulu convoquer, l'Italie réelle et l'Italie imaginaire dans un même roman ?
Mais il n'y a pas d'Italie imaginaire dans ce roman, en fait. Elle est bien réelle. Après, elle est évidemment traitée avec tous les fantasmes qu'on peut avoir vis-à-vis de quelque chose, mais j'ai envie de dire que je n'écris pas si je n'ai pas un fantasme, comme quand on tombe amoureux vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis d'un livre, ou vis-à-vis d'une histoire. Mais non, je m'efforce, en tout cas, dans ce livre, je pense que l'Italie est toujours au-delà des fantasmes qu'on peut avoir sur elle. C'est un pays complètement fou, dans le bien comme dans le mal, d'ailleurs. Le livre parlait de ça, mais pour moi, c'est une Italie tout à fait réelle.
Et pour vous, Léonore de Recondo, parce que je l'ai dit, le contexte est bien réel, Vivaldi, La Pietà, c'est bien réel, mais c'est une fiction aussi que vous avez écrite, donc aussi une manière de composer votre Italie.
Oui, et puis de choisir des lieux réels et de s'ancrer quelque part sur un territoire, c'est pouvoir prendre appui pour justement déployer l'imaginaire. Donc je pense que comme Jean-Baptiste, cette Venise, alors bon, moi je suis encore deux siècles plus tôt que l'histoire de Jean-Baptiste, donc peut-être cette distance historique, cette distance temporelle qui laisse encore plus d'espace peut-être au fantasme ou à l'idée qu'on se fait de Venise en 1710. Néanmoins, pour pouvoir écrire ce texte, je me suis vraiment beaucoup documentée sur la ville. Parce que pour prendre appui et pour pouvoir développer un imaginaire, il faut des choses tout à fait ancrées. Là, j'utilise un personnage qui a existé, Vivaldi, un lieu qui a existé et qui existe toujours, la Pietà. Donc je me suis plongée dans les archives, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches. Et c'est ça, c'est cette réalité-là, même si elle est vue par le prisme de l'écrivaine ou de l'écrivain, c'est cette réalité-là qui me permet de développer quelque chose, d'ouvrir quelque chose. Et c'est fondamental pour moi de pouvoir me baser sur quelque chose de tangible, que ce soit les murs d'une institution. Et c'est par ce biais-là que j'arrive petit à petit à développer un monde qui est un monde imaginaire. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ces interstices entre la réalité, l'historique, le tangible et cet espace concret avec l'imaginaire, avec l'écriture, avec les personnages qui surgissent.
Le fait d'avoir choisi une enfant qui, au début du livre, elle naît, donc on est vraiment sur les premières années, est-ce que ça a contribué aussi à savoir comment saisir l'Italie ? Parce qu'elle est comme nous, elle ne connaît pas. Et en plus, elle est dans un univers clos, qui est cette Pietà où elle sort très très peu à Noël pour aller à sa famille. Mais bon, ça ne se passe pas forcément bien avec ses sœurs qui, elles, ont continué à vivre dans leur famille, contrairement à elle. Et puis, ça rejoint peut-être le début de ce que vous disiez sur votre réponse, c'est-à-dire qu'il y a ces deux siècles plus tôt. Donc, est-ce que ça vous permettait aussi, que cette porte d'entrée, de plus facilement pouvoir saisir ce que pouvait être l'Italie pour un regard complètement neuf, nouveau?
Oui, bien sûr, l'émerveillement de cette petite fille. Et puis bon, Venise, c'est une ville où toutes les temporalités se télescopent. La beauté des bâtiments, qui sont certains bien plus anciens que le début du XVIIIe. Et en même temps, on navigue entre ces palais, ces églises, ce paysage, cette lagune qui est là depuis toujours. Toutes les espèces animales et végétales qui surgissent de ce territoire si particulier qu'est une lagune. Donc, et c'est ce qui, je pense, qui nous bouleverse encore aujourd'hui, c'est que quand on arrive à Venise, on est hors de notre temps et on est dans le temps de la ville. Et moi, avec cette petite fille qui va naître en 1699 et qu'on va suivre pendant 15-16 ans, qui vit recluse dans cette institution et qui parfois en sort et donc s'émerveille de la beauté de la ville, ça me permettait cet espace-là, en effet, cet espace de l'émerveillement et puis de la découverte et cet émerveillement qu'on a toujours en venant à Venise aujourd'hui encore, avec, comme je disais, ces temporalités qui sont celles avec lesquelles on joue aussi quand on écrit.
Qu'est-ce qui vous intéressait en choisissant un personnage donc qui naît au début du roman, mais qui vient aussi d'un milieu modeste, c'est-à-dire que c'est une histoire d'ascension sociale. Pour vous aussi, Jean-Baptiste Andrea, c'est aussi cela que vous racontez, mais vos deux personnages, ils viennent de l'enfance, ils viennent de milieux défavorisés dans lesquels rien ne leur est donné. Ils vont devoir l'acquérir. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce processus, ce parcours-là ?
Eh bien, c'est les armes qu'Ilaria va être obligée de trouver. Alors là, ça va être un violon et un archet comme arme, mais pour découvrir le monde et y faire sa place. Dans cette institution où elles sont très nombreuses, elles sont vraiment plusieurs centaines, entre 800 et 900 au début du XVIIIe siècle, il y a quand même là, par contre, une sorte d'homogénéité de classe sociale. Elles sont toutes, a priori, de classe défavorisée, sauf celles qui viennent prendre quelques cours de temps en temps, mais qui ne vivent pas dans l'institution. Donc je pense que dans l'institution, la notion de classe sociale n'existe pas. Elles sont en uniforme, donc bon, ça, c'est tout à fait contemporain de parler de l'uniforme, mais elles sont en uniforme et c'est à travers la musique que peut-être vont se jouer ces enjeux de se faire remarquer, d'entrer dans une sorte d'excellence et d'avancer, alors non seulement dans une reconnaissance dans le regard des autres, mais surtout dans une connaissance du monde, de sensible grâce à la musique. Mais pour moi, ce qui m'intéressait, c'est que justement, dans cet espace-là de l'institution, il n'y a pas de différences sociales. Elles sont toutes, elles démarrent toutes au même endroit, c'est-à-dire quand même assez bas. Leur vie est sauvée, ce ne sont que des petites filles, donc leur vie est sauvée quand elles sont entrées là. Elles sauvent aussi souvent la vie des mères qui ont dû les laisser. Donc je pense qu'il y a une, en commun la certitude déjà d'être sauvée quand même en entrant là. Et après, chacune développe ses armes musicales ou autres pour pouvoir trouver sa place dans le monde.
Oui, mais alors avec quel rêve ? Parce qu'elle, elle va compter sur la musique pour pouvoir s'en sortir et trouver sa place dans le monde. Mais parmi ses proches, il y en a une qui choisit de devenir religieuse, une qui choisit le mariage pour cela. Elle, à quoi elle rêve ? Pourquoi est-ce qu'elle investit la musique pour s'en sortir et pas ses autres possibilités pour une femme de l'Italie du début du XVIIIe siècle ?
Parce que c'est le seul espace qu'il y a, c'est-à-dire tant qu'elle est en closure, tant qu'elles sont dans cette institution, le mariage, la question du mariage se pose quand même au moins quand elles ont 18 ans et pour le couvent plus ou moins à la même période. Donc il y a quand même toutes, elles arrivent en général toutes bébés, ce sont des nourrissons qui arrivent, donc elles vont grandir pendant au moins une dizaine d'années dans cet espace-là. Et qu'est-ce qu'elles ont ? Pas grand-chose. Elles ont une communauté sur laquelle elles peuvent s'appuyer et souvent un besoin criant de tendresse et d'affection qu'elles n'ont plus puisqu'elles n'ont pas de famille la plupart. Et puis cet espace musical où je pense qu'elles sentent toutes, alors avec plus ou moins d'affinité pour la musique, mais elles savent bien que c'est là que ça se passe. Et pour Ilaria, quand elle va écouter le chœur chanter, elle entend bien, elle est toute petite, elle a 4-5 ans, elle sent bien que... c'est comme si le monde entier était dans le corps de ces femmes qui chantent. C'est-à-dire, sa fenêtre sur le monde extérieur, c'est cette musique qui leur est apportée de l'extérieur et qu'elles vont chanter, et la vibration des corps, donc sensibles, organiques, qui la traversent et qui font qu'elles découvrent autre chose que les murs de l'institution. Et elle se dit que c'est par ce biais-là qu'elle va pouvoir grandir.
Jean-Baptiste, Andrea, dans votre roman Veiller sur elle, donc le personnage que vous racontez, j'ai donné son nom tout à l'heure, mais on va l'appeler Mimo, puisque c'est le surnom, surtout, qui est le sien et avec lequel vous le racontez. Donc il est né en France, il est envoyé par sa mère chez un oncle en 1916, qui est sculpteur, avec l'espoir qu'il fasse aussi la sculpture. Dans quel contexte il arrive ? Parce que vous avez choisi quand même quelque chose qui n'est pas évident au début, c'est-à-dire qu'il arrive en 1916 en pleine Première Guerre mondiale, et il arrive, je l'ai dit, chez un sculpteur qui ne veut pas de lui, et qui en plus, on peut y ajouter un troisième élément compliqué, qui a du mal à trouver du travail.
Oui, moi j'aimais bien... J'aime bien l'idée que les personnages doivent partir d'assez bas pour aller très loin. Je m'intéresse à des destins de toute façon un peu héroïques. Et je crois que s'ils partent quand on n'a pas les armes pour démarrer dans la vie, évidemment, c'est une injustice flagrante. Et en même temps, ça peut être un moteur énorme. Soit ça vous écrase, soit ça vous élève, en fait. Souvent, ça vous écrase, d'ailleurs. Mais moi, je m'intéresse à un gamin, en l'occurrence, mais c'est un peu le cas dans tous mes romans, que ça élève. Et donc, voilà, je le plonge dans un milieu assez hostile, à plein de points de vue, émotionnellement. Il n'y a pas beaucoup d'amour autour de lui. Il n'est pas comme tout le monde. Il n'a pas un rond. Tout ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Et l'époque, l'époque qui est celle de la montée du fascisme, était importante pour moi. Léonore a très justement dit que plus on remonte dans l'histoire, plus on autorise en fait du fantasme. Et c'est vrai que, plus on s'éloigne, j'ai l'impression, plus on peut s'autoriser de choses en tant que romancier, d'une certaine manière, en tout cas dans la construction d'une trame. Parce que moi, dans ce livre-là, moi, je voulais parler d'un truc assez actuel, de deux choses assez actuelles qui me semblaient actuelles. Un, la condition des femmes et la montée des extrêmes. Et donc, je ne voulais pas remonter trop. En fait, mon histoire aurait pu se passer à la même époque que celle de Léonore. Mais je crois qu'à cause de ce sujet du fascisme et de la montée des extrêmes, les gens m'auraient dit oui, mais ça, c'est loin, en fait. Alors que là, c'est une tyrannie du XXe siècle, ça leur parle plus. Donc, moi, j'étais un peu tenu au XXe siècle par cette histoire-là en particulier, pour qu'elle garde une résonance contemporaine. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'une histoire au XVIIIe n'a pas de résonance contemporaine, mais avec ce sujet-là qui est la montée d'une forme d'extrême, en l'occurrence d'extrême droite, là c'est un schéma qui est propre vraiment aux 100 dernières années.
Oui, puis alors avant cette dimension politique, avant la montée des extrêmes, il y a l'appartenance sociale ou les chocs d'appartenance sociale que vous racontez, parce que ce Mimo, dont même la mère du sculpteur trouve qu'il devrait donner de l'argent parce qu'ils n'ont quand même pas l'air très très en forme physiquement, ces petits apprentis, il va, suite à un coup de vent, être amené à travailler sur la toiture, la famille des Orsini, qui est une des deux grandes familles, les riches familles du village dans lequel ils vont déménager et ils vont établir l'atelier de sculpteur. Et c'est là où il va rencontrer Viola, qui est la jeune fille qui est aussi au centre de ce roman. Qu'est-ce qui l'a aussi vous intéressé dans ce choc de noblesse, alors qui n'est pas aussi simpliste que je pourrais laisser entendre, parce que Viola a beau être la fille d'un riche personnage, elle est quand même qualifiée de sorcière, il faut quand même s'en méfier, et les rumeurs autour d'elle ne sont pas très bonnes non plus.
Non. Viola, c'est le point d'entrée pour moi dans le roman, enfin, à part la statue dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment l'héroïne de ce roman. C'est d'elle que je voulais parler. Moi, je suis amoureux de Viola. Elle n'existe pas, mais je suis quand même amoureux d'elle. Je la trouve géniale. Je recherche, moi, dans la vie, des gens comme ça, en fait, hommes ou femmes, hein, mais des gens qui sont complètement hors des clous et hors de la... qui font tout de suite un pas de côté pour sortir de la voie qu'on a tracée pour eux, en fait. Ça, c'est les amitiés dont j'aime m'entourer. Et Viola, c'est vraiment ça, dans la mesure où elle vient d'un milieu qui est extrêmement rigide, qui est celui de la noblesse, qui est celui de la fortune. Et Viola souffre paradoxalement du plus gros problème qui puisse arriver... Enfin, elle souffre des deux plus gros problèmes qui puissent arriver à quelqu'un, et c'est encore valable aujourd'hui. Un, elle est intelligente, et deux, c'est une femme. Et donc, ça, c'est un sujet qui en faisait pour moi une véritable héroïne, un sujet très romanesque, une femme incroyablement... enfin, qui me fascinait. Et voilà pourquoi elle est tellement présente dans ce roman. Parce que son combat est beaucoup plus épique que celui de Mimo, en fait, paradoxalement. Au début du roman, quand on regarde les cartes qui leur sont données, on pourrait dire « Ah, le pauvre Mimo, il n'a pas une chance dans la vie. Elle a quand même de la chance dans la vie. » Or, c'est presque l'inverse qui se produit, et donc ce jeu-là m'intéressait beaucoup.
Oui, parce que, et puis en plus, elle est très généreuse, parce qu'elle la délivre, elle lui transmet une partie du savoir à ce Mimo qui va, dans un séjour à Florence, essayer d'aller voir en vrai les fresques de Fra Angelico qu'il a découvert notamment. Mais ils se font un pacte, un serment assez tôt dans le livre. C'est « Moi, Viola, je t'aide, toi, Mimo, à devenir un sculpteur, et toi, à l'inverse, tu m'aides à voler, à s'envoler. » Alors évidemment, le vol, il est à la fois le voler dans sa propre vie et puis voler physiquement, puisqu'il en est aussi question avec tout ce qu'elle peut trouver dans les livres. Comment vous est venue cette drôle d'idée d'associer la sculpture de la pierre, donc plutôt ce qui est enraciné, et puis le vol qui est plutôt l'aérien, même si il se rend compte, parce qu'il a travaillé sur une sculpture sur un toit, donc quand même en hauteur. Un peu une rencontre des contraires, là.
Oui, bah, de toute façon, c'est... ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les contraires. Dans la vraie vie, ce n'est pas de rencontrer des gens qui me ressemblent exactement. Ça m'intéresse de me confronter, enfin, ça me fascine même à d'autres points de vue, des gens qui font un truc que je ne fais pas, ou même, d'ailleurs, j'ai plein d'amis écrivaines et écrivains, on fait la même chose, mais on le fait tous très différemment. C'est ça que j'adore dans ce milieu, en fait. Et là, donc, évidemment, il y a des trucs très différents entre eux, mais il y a aussi des choses fondamentalement communes. Ils ont tous les deux une aspiration plus ou moins formulée à quelque chose de plus grand qu'eux, notamment à cette notion de vol. Alors, c'est vrai que Mimo, il est très terrien au départ, mais il s'élève de plus en plus grâce à Viola. Et puis le vol, il est surtout métaphorique parce que ce roman, et une nouvelle fois les précédents, parle beaucoup de s'arracher à un déterminisme ou à une prédestination et aux injonctions et aux ordres qui vous disent « ta place est là ». Ordre et injonction que moi, j'ai eu beaucoup le sentiment de recevoir quand je racontais à tout le monde que je voulais écrire très tôt, quand j'étais gamin. Et moi, tout le monde me disait, que ce soit ma famille pour me protéger ou la société entière ou l'école, me disait « mais c'est pas un métier, écrivain. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est pas dans les catalogues. C'est pas dans les catalogues d'orientation. » Et donc, ça parle de ça pour moi, cette idée de voler, de s'élever, c'est s'arracher à la pesanteur de la norme dont je n'ai pas fini de parler parce que je crois qu'on n'en soupçonne pas le poids, en fait. La norme, c'est quelque chose de complètement invisible, dont on a tous conscience sans en avoir conscience. On vit avec, d'ailleurs, il en faut, hein, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais c'est aussi un piège à loup. C'est un truc qui peut se refermer sur notre cheville très tôt, en fait, et vraiment nous retenir à un endroit, à un lieu dans notre tête, et nous empêcher d'aller plus loin. Ça parle de ça, cette idée de s'envoler, je pense.
Léonore de Récondo, est-ce qu'il y a de cela aussi dans votre manière dont vous avez inventé ce personnage d'Hilaria, et notamment ce que disait Jean-Baptiste Andrea par rapport à la norme, c'est-à-dire qu'elle est dans un monde très normé, très codifié, en plus qui est un monde clos, même si elle a l'occasion, je l'ai dit, de sortir de temps à autre pour aller voir sa famille, mais aussi grâce à une de ses amies, Prudenza, d'aller chez elle et découvrir aussi un autre milieu social que le sien. Mais elle semble, dans ce monde de normes, peu soucieuse finalement des normes. Elle décide, pour éteindre le grand feu qui la gagne, d'aller se jeter dans un lagon de Venise, ce qui ne se fait pas du tout. Il y avait ce plaisir aussi à inventer un personnage qui est quand même assez libre par rapport à tout cela.
Oui, absolument. Ben, je pense que ce qui est en commun dans les livres, c'est aussi l'élévation par l'art, l'art comme une forme d'incarnation du spirituel et d'une recherche intérieure. Donc nous, en tant qu'écrivain, on le fait. Donc c'est finalement le livre que vous voyez, nos deux livres. Mais ces deux livres, c'est aussi une forme de mise en abîme de cette quête. Nos personnages cherchent la même chose que ce qu'on cherche. De toute manière, c'est infini. Cette quête de comprendre le monde en s'élevant et en l'imaginant, ça, je pense, et ce que fait Hilaria, la manière dont elle essaye de s'affranchir des contraintes, les contraintes qui peuvent être celles de l'institution, les règles de l'institution, mais aussi les contraintes de l'enseignement d'un instrument qui est difficile, les contraintes qui sont celles d'être dans un lieu sans pouvoir en sortir, les contraintes d'une partition de musique. C'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de ces contraintes, qu'est-ce qu'on va modeler avec ça. Et elle, alors c'est à travers plusieurs espaces, donc il va y avoir l'espace musical dans lequel, grâce à son apprentissage et à la rigueur de cet enseignement et des partitions qu'elle va pouvoir jouer, il y a quelque chose d'elle-même qu'elle va exprimer, mais aussi quelque chose du monde extérieur qui la traverse et qu'elle exprime à travers la musique. Et puis il y a l'amitié, parce que je pense que c'est aussi dans la rencontre à l'autre qu'on découvre le monde et qu'on s'émancipe de soi-même et de ce qu'on pensait être, parce que l'identité, c'est aussi ce qu'on voit dans le regard de l'autre, ce qui nous est renvoyé de nous-mêmes. Donc cette petite, dans ses amitiés et dans l'affection qu'elle va chercher ailleurs que dans sa famille, là aussi, elle trouve une forme de matière à liberté, en tout cas à exploration. Et puis après, il y a aussi la métaphore du voyage, la métaphore de la ville, la métaphore de sortir de l'institution par la porte et par monter dans une gondole et arriver sur la lagune. Et là, le monde est ouvert. C'est la beauté de ce lieu, c'est la beauté de la lumière, c'est la beauté des églises, c'est la beauté des oiseaux, c'est la beauté du silence, c'est tout ce qui fait Venise, tout ce qui fait le monde qui l'entoure. Donc, je crois qu'on cherche par
des sortes de chemins multiples qui parfois se confondent, qui parfois se resserrent et qui parfois s'étendent à appréhender ce qui nous entoure et à la fois à l'appréhender et à la fois à s'en extraire. Et la littérature, c'est ça, on vit autre chose que nous-mêmes. Dans les textes, tout est possible, dans les livres. Donc on s'affranchit nous-mêmes de notre propre réel pour en faire autre chose qui est réel dans l'imaginaire.
Et vous disiez le rapport à la ville et ce monde qui s'ouvre, elle est quand même habitée par une envie d'ailleurs, une envie de... Parce que voilà, ce n'est pas les rares fois où elle va chez sa famille qu'elle découvre vraiment la ville et elle a la chance de devenir amie de Prudenza qui, elle, n'a pas le même parcours parce qu'elle vient juste à La Pietà pour des cours de musique. Et en fait, l'amitié, elle se fonde d'abord sur... raconte-moi la ville. Il y a un désir de ville, un désir de curiosité de l'ailleurs qui est très fort chez elle.
Oui, et puis ce qui nous est caché nous intéresse, nous intrigue. Donc je pense que dans cette immense communauté de centaines d'enfants de tous âges, ça discutait, elle devait se raconter, moi je suis allée là, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Du coup, la ville extérieure devient une sorte d'immense fantasme et quelque chose d'inaccessible. Et donc quand il y en a une, Prudence, sa grande copine, qui elle ne vient que quelques fois par semaine prendre des cours de chant et qui tous les jours a la possibilité d'entrer et de sortir de cet endroit, chose enfin fer rarissime de pouvoir librement y entrer et y sortir et en sortir, elle veut savoir. Tout d'un coup, cette amie devient le vecteur de la liberté et du possible. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant le livre de Jean-Baptiste, c'est que Viola, elle a ça aussi. Elle est l'incarnation de cette liberté et du possible pour Mimo. Elle est comme cette sorte de liberté incarnée. Elle est le monde entier.
Alors, je rebondis ce que vous dites pour interroger justement Jean-Baptiste. Est-ce qu'elle l'est aussi parce que c'est peut-être la seule qui reconnaît vraiment Mimo pour ce qu'il est. Parce qu'il n'est pas du tout considéré par le sculpteur ce qu'il est.
Non, bah, il est considéré par pas grand monde, ça c'est sûr. C'est un regard entier de la société. En fait, une nouvelle fois, il ne ressemble pas à tout le monde, il n'a pas de fric. Donc, oui, bien sûr qu'elle est... mais je pense qu'elle voit... Elle voit... Elle voit ce qui est invisible et là encore, je rejoins ce que disait juste Léonore sur peut-être le travail qu'on fait. On pourra aussi dire qu'on essaie, enfin, tu as employé le mot, j'ai oublié le mot, mais mystique ou spirituel, hein, pour parler un peu de la quête de nos deux héros d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas une quête pour Hilaria au départ, mais en tout cas, elle commence à entendre des choses qu'elle n'entendait pas au départ. Ça, c'est un sujet qui me parle beaucoup. En tout cas, cette idée d'essayer... dans nos vies, de voir ce qui est invisible, je dis ça entre guillemets, hein, parce que c'est pas littéral, mais ça me paraît essentiel. Je crois que c'est notre travail de romancier, d'essayer de montrer quelque chose qui n'est pas là devant nos yeux, de suggérer quelque chose d'un ailleurs ou une autre forme de vie, parfois justement une spiritualité. Donc toute cette capacité là, je l'incarne effectivement dans Viola. Elle voit tout, on ne peut pas lui mentir à Viola, ni son milieu et surtout pas Mimo. Elle voit d'ailleurs des choses que lui-même est incapable de voir.
Alors ça, c'est peut-être aussi un point commun, Éléonore de Recondo, avec votre Hilaria, qui ne voit pas que le frère de Prudenza, Paolo, à partir du jour, elles se sont toutes les deux jetées dans la lagune, et bien un sentiment amoureux qui s'éveille pour lui. Comme il y a plein de choses aussi quand même qu'elle ne voit pas. Il vous faut... les autres personnages, pour parfois dire un peu plus que ce qu'est Hilaria.
Oui, je trouve ça intéressant de découvrir le personnage et de faire découvrir le personnage par le regard des autres. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure de l'identité qu'on a de soi-même dans ce qui nous est renvoyé par les autres. Et là aussi, elle grandit dans la rencontre. Elle grandit dans la rencontre, alors d'abord avec cette chanteuse qu'elle admire tant, qui a une voix exceptionnelle. Elle est toute petite, elle l'écoute chanter, elle est traversée par la beauté de cette voix. Donc cette personne, Malia va lui faire découvrir quelque chose à la fois du monde et d'elle-même. Et puis il y a la cousine
manque
de
chance,
sa mère.
Manque de chance, Maria, on n'a juste rien à faire.
Oui, elle n'a rien à faire, mais ce n'est pas grave, elle en prend quand même quelque chose. Elle se dit, je vais quand même réussir à voler quelque chose, et elle le fait. Et puis ensuite, évidemment, son professeur et la découverte du violon, et puis l'amitié, et puis tout ça fait que petit à petit, les regards qui sont posés sur elle et que le lecteur pose avec l'autre personnage sur cet enfant vont faire qu'on va mieux la connaître, mais qu'elle-même va mieux se connaître. Et puis, comme elle vit dans cet univers clos, chaque rencontre est très très importante, chaque rencontre est décuplée. Elle n'a pas beaucoup de possibles de rencontres. Néanmoins, quand la rencontre amoureuse advient, puisque c'est la première pour elle, elle est toute jeune adolescente, elle a 15-16 ans, donc c'est vraiment ce premier amour exalté, complètement idéaliste, elle s'en méfie. Elle s'en méfie parce que pour elle, l'amour, c'est aussi cet abandon premier qui a eu lieu avec le fait que sa mère ait voulu un autre destin que le sien pour sa fille et donc l'a laissé là. Et ce déchirement, et donc elle se demande si quand même il existe un sentiment assez désintéressé pour ne pas succomber à l'abandon. Et ça, c'est donc elle se méfie quand même de la rencontre amoureuse.
Oui, alors qu'elle ne se méfie pas des autres rencontres, les rencontres amicales, alors que l'abandon est un thème aussi quand même qui traverse une partie de votre roman, puisque cette Maria, qui est celle qui a cette voix d'alto absolument incroyable et que Ilaria aurait bien aimé avoir un peu de considération, elle part, celle qui lui enseigne le violon, l'intermédiaire entre Vivaldi, et elle part aussi, c'est-à-dire qu'elle ne cesse de se lier à des personnages qui, pour une bonne partie, l'abandonnent.
Oui, alors il y a des abandons qui sont plus durs que d'autres. on va pas faire la hiérarchie des abandons maintenant, mais je pense que le premier est quand même le plus dur. Et ensuite, il y a des choses qui sont un peu plus naturelles. Je pense que oui, elle souffre de l'abandon, enfin c'est même pas une forme d'abandon, mais de l'ignorance, de l'indifférence de Maria, la chanteuse. Et ensuite, quand Giulietta, son professeur, lui explique qu'elle va rentrer au couvent, bon, je pense que ça, c'est des choses qu'elle peut entendre et qu'elle peut comprendre. Et pendant tout ce temps-là, Giulietta, sa professeure, a été présente, lui a enseigné le violon, elle va lui transmettre son instrument. Enfin, il y a des lieux de transmission qui existent et qui ne sont pas des abandons inexpliqués, qui n'ont pas de sens. Le premier, celui de la mère, je pense qu'Ilaria comprend un petit peu le mouvement, mais il y a quelque chose de tellement déchirant que ça vient colorer quand même un peu les rencontres profondes et en tout cas sa rencontre amoureuse.
Des abandons, Jean-Baptiste André, alors là aussi ça va être la partie délicate parce qu'il faut en parler sans trop en parler non plus, sans trop avancer dans ce qu'on pourrait divulguer de votre livre, mais c'est aussi ce qui construit votre personnage, car il aime et il est déçu en même temps. Qu'est-ce que vous pourrez nous raconter, jusqu'où vous pourrez nous raconter cela, qui participe aussi du destin de votre personnage, problème à s'attacher aux autres, problème des abandons aussi?
Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est plus intéressant quand un personnage a moins d'armes pour démarrer dans la vie, il est livré à lui-même, en gros il a le choix, sombrer ou s'élever. Il y a un abandon par sa mère, enfin un abandon sans en être un, mais en fait il y en est peut-être un justement. Il y a quelques rares lecteurs ou lectrices qui viennent me dire « Ah, la mère de Mimou, mais en fait, elle abandonne, et pourquoi si, et pourquoi ça, comment elle peut faire ça ?» Et en fait, là encore, pour moi, ça renvoyait à une image de ce que doit être une mère qui était caricaturale, en fait, comme s'il n'y avait pas mille façons d'être une mère, comme si une mère ne pouvait pas abandonner son enfant sans être simplement un monstre, en fait, comme s'il n'y avait pas des choses beaucoup plus complexes derrière. Donc, en fait, c'est plutôt le personnage de la mère que je trouve intéressant dans cette notion d'abandon que celui de Mimo, parce qu'effectivement, bien sûr, il a ce poids dès le début, mais c'est presque ça fait presque partie de l'époque aussi, des époques de guerre. Ce sont des époques beaucoup plus difficiles. La parentalité n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc je pense même que cette notion d'exil est beaucoup plus intégrée ou presque acceptée. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus facile à vivre, mais à cette époque-là, le côté abandon m'intéressait plus sur le personnage de la mère, que paradoxalement, je ne traite pas du tout ou très peu. Mais je donne juste quelques clés pour les lecteurs ou les lectrices qui seraient sensibles à ça. C'est un personnage qui m'intéresse, la mère. Voilà. Mais en tout cas, Mimo, il est envoyé dans le monde avec un coup de pied aux fesses, presque, qui n'est pas vraiment un coup de pied aux fesses, mais un peu comme Ilaria. En fait, c'est la même logique, d'ailleurs. Il y a des raisons rationnelles, ça ne veut pas dire que ça fait plaisir. Et ce n'est pas parce qu'on le fait que ça ne nous déchire pas, cet abandon-là, des deux côtés. C'est une nouvelle fois... C'est pas très intellectuel ce processus pour moi quand je le fais. On explique, on détaille, on rationalise, mais c'est de l'émotion quand on écrit ça, je pense.
Et encore plus dans des romans qui sont évidemment des œuvres d'art, mais qui convoquent d'autres arts, parce que je voudrais qu'on en parle de la sculpture et de la musique, dans la manière aussi dont vous les avez pensées, dont vous les mettez en relation avec vos personnages. Je vous ai proposé à l'un et à l'autre, on va peut-être commencer avec vous, Jean-Baptiste Andrea, de nous lire des extraits de votre livre. Jean-Baptiste, est-ce que vous accepteriez de commencer pour nous raconter aussi ce rapport, ce que fait, ce que crée votre personnage ?
J'accepte, si le nom me le permet. Dio se pétrifia en apercevant le marquis sur le seuil. Jola l'accompagnait, ainsi qu'un jeune homme en soutane que je reconnus comme étant Francesco, le plus jeune des frères. Un personnage plus âgé les suivait, en soutane noire, lui aussi, une ceinture violette autour de la taille. Dio recouvra ses esprits, lâcha son marteau et se courba. « Votre seigneurie, mon père ?»« Excellence, » corrigea le marquis de sa voix douce, se tournant vers l'homme à la ceinture. Monseigneur Pacelli nous fait la joie d'accompagner Francesco, dont il est l'un des professeurs, ce week-end. C'est un honneur pour les Orsini. L'honneur est pour moi d'éduquer un étudiant prometteur, répondit l'évêque avec une tape amicale sur l'épaule de Francesco. Je fis un pas vers nos visiteurs avant que Zio puisse parler. Mon maître ici présent m'a demandé de sculpter cette œuvre en hommage à la famille Orsini à l'occasion de l'anniversaire de votre fille. Et il m'a confié avec générosité un bloc de marbre de Carrare qui lui était précieux. J'ai choisi le thème de l'ours comme sur votre blason. Sio ouvrit la bouche, décontenancé, pendant que le petit groupe approchait. Le marquis se tourna vers moi, intrigué. C'est toi qui as sculpté ça, mon garçon ? Oui, votre seigneurie. Quel âge as-tu ? 16 ans, votre seigneurie. Comme Viola, regarde, ma chérie, ce que ce jeune homme a fait pour toi. Viola inclina la tête. Je vis tout de suite qu'elle était dans l'un de ses mauvais jours. C'est très beau, merci. L'évêque chaussa ses lunettes et approcha de l'œuvre. Prodigieux. Chez un sculpteur si jeune d'abord, mais les grands de la Renaissance commençaient jeunes eux aussi. La perfection des formes, du mouvement est tout bonnement étonnante. Et cette modernité, n'importe qui aurait été tenté de sculpter la seconde partie du bloc. L'effet n'en est que plus saisissant. Bravo, jeune homme, vous irez loin. Et nous vous y aiderons peut-être, qui sait. Viola hocha lentement la tête, ses yeux tristes remplis de... Je te l'avais dit. Francesco nous regardait, main dans le dos, d'un air aimable. Nous enverrons des hommes vous aider à transporter la statue en début d'après-midi. Les festivités commencent au déjeuner et se poursuivront dans la soirée. Viola pourra aussi admirer son cadeau et choisir son emplacement. Il est bien entendu, maître Susso, que ce geste généreux sera récompensé. Ce jeune sculpteur pourrait peut-être venir à ma fête, suggéra Viola. Il est vraiment très talentueux. Le marquis haussa un sourcil, m'étudia un instant, puis consulta son fils d'un bref regard. « Bien sûr, pourquoi pas ? C'est ton jour après tout. Tes invités sont les nôtres. »
Merci beaucoup pour cette lecture, Jean-Baptiste André, qui permet aussi d'apprécier pleinement la musicalité et le style de votre écriture. Et je vous ai proposé ce passage parce qu'il marque une des ruptures de votre roman. Vous l'avez dit, il a 16 ans, on est en 1920. Il a sculpté en cachette du sculpteur chez qui il travaille et qui a même voulu fracasser son œuvre. Il l'a fait pour Viola, chez qui il est officiellement invité pour la première fois. Il y a aussi une reconnaissance du marquis Orsini. Et son travail est aussi salué, imperfection des formes et modernité, est-il dit dans cet extrait. Que sculpte-t-il ? Qu'est-ce qui vous intéressait ? Vous avez parlé tout à l'heure de ce rapport plutôt distant, si je ne me trompe pas, avec la sculpture. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette activité-là et jusqu'où est-ce que vous avez imaginé ce qu'il pouvait sculpter ? Il y a cette œuvre-là, il y a la Pietà qui traverse l'œuvre et qui est plus racontée par les sentiments qu'elle procure que par l'esthétique, mais jusqu'où est-ce qu'il vous a fallu imaginer l'esthétique et le talent de votre personnage ?
Mais en fait, le livre part de sculpture. Moi, je ne suis pas expert en sculpture. Enfin, j'aime la belle sculpture, hein, comme les gens qui sont sensibles à l'art en général. Mais je suis plus connaisseur en peinture. Et je n'avais pas envie d'écrire un livre pour amateurs de sculpture, parce que je pense que c'est un public quand même un peu restreint. En fait, je me suis dit, OK, je parle d'un sculpteur dont je déclare et donc j'annonce dès le début du roman qu'il est génial. Et donc, comment je vais traduire son génie, en fait. Mais l'abord de la sculpture, en fait, je me suis mis dans sa peau et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire de différent si je suis sculpteur ? Finalement, ça ne se joue pas dans un geste que je ne peux pas faire passer nécessairement par le papier ou que je ne me sentais pas de faire passer à travers les mots. Ça se joue dans la vision qu'il a de son œuvre, dans ce qu'il essaie de raconter. Qu'est-ce qu'il essaie de raconter ? Ça, c'est central pour moi. Puisqu'on revient à cette idée qui est très importante à mes yeux, que tous les arts ont la même fonction, juste des outils différents, mais la même fonction, qui est de nous raconter une histoire. Nous raconter une histoire qui est celle de l'humanité, nous raconter une histoire qui parfois est notre histoire intime alors qu'on n'est pas les personnages du livre, alors qu'on n'est pas la statue représentée, mais il doit y avoir quelque chose, une œuvre d'art réussie, une grande œuvre d'art, nous raconte une histoire qui est la nôtre, d'une manière, d'une façon ou d'une autre. J'ai abordé l'art de Mimo de manière littéraire. En fait, je me suis dit, OK, si j'étais Mimo, comment je sculpterais, qu'est-ce que j'essaierais d'apporter de différent? Et cette chose-là s'exprime avec des mots. Alors, je ne vais pas dire ce que c'est expliqué à chaque statue en fait, qui sculpte, mais ça se décrit avec des mots, ce qu'il apporte de différent. Et une nouvelle fois, mon abord de la sculpture est juste littéraire, et je parle d'ailleurs de la sculpture comme je parlerai d'écriture. Il y a une phrase vers la fin où le parallèle est assez évident entre ce que m'apparaît être le geste d'un sculpteur qui n'est pas si différent du geste que Léonore et moi on fait tous les jours, ou en tout cas assez souvent. Mais c'est le même geste en musique, en fait, aussi. C'est d'en dire le plus possible avec le moins possible. Pour moi, c'est ça. Le développement d'une carrière artistique, c'est ça. D'en dire toujours plus avec toujours moins. Ça pourrait même se résumer à ça. Il faudrait que j'arrête de parler.
Il reste encore un quart d'heure, hein, Jean-Baptiste.
Andréa. Non, mais j'arrête sur cette question.
J'avais compris, rassurez-vous. Mais alors, oui, c'est intéressant ce que vous dites, mais en même temps, moi, ça m'interroge quand même par rapport à la manière dont vous avez construit le roman et l'époque, parce qu'il fait de la sculpture pour avoir un autre destin que celui qui était promis. Il fait de la sculpture aussi dans son jeu de séduction avec Viola. Mais, et là, vous avez le droit de dire stop, Arnaud, tu vas trop loin, dans l'histoire, c'est aussi le fascisme, et on sait que le fascisme Mussolini, il a aussi un rapport particulier à l'art, qui se sert aussi, qui mobilise aussi la sculpture pour son projet idéologique. Donc, qu'est-ce qui vous intéressait d'avoir un même art pour finalement des fonctions, pour raconter des histoires aussi différentes ?
Oui, enfin, l'art, dans ce qu'il a de plus noble à notre époque, il n'est pas lié au pouvoir politique. Donc c'est justement un dévoiement de l'art. Autant à l'époque d'Hilaria et à l'époque que décrit Léonore, l'art était intrinsèquement lié aux cours ou aux églises et donc au pouvoir spirituel ou temporel, autant au XXe siècle, l'art il s'est affranchi de tout ça. Donc quand il revient dans le giron de la politique ou du pouvoir au sens large, c'est pas une très bonne chose. Donc en fait, pour moi, l'art cesse. Enfin, est-ce qu'il cesse d'être art quand il revient dans le giron de ces pouvoirs-là et surtout des totalitarismes ? Pas forcément, mais l'intention pollue quand même beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est un peu une sorte de chemin de traverse que fera tenter de prendre Mimo au fur et à mesure de sa vie, mais ça fait pas partie de la trajectoire pure de la démarche artistique. Pour moi, elle est quasiment spirituelle. elle n'est pas quasiment spirituelle, c'est ce que disait Léonore tout à l'heure, elle est même spirituelle d'une manière ou d'une autre, quels que soient les mots qu'on mette derrière spirituel, hein, mais la démarche de l'art, c'est ça. Pour moi, c'est cette connexion et quelque chose de plus grand que nous, quel que soit l'art, et le pouvoir n'en fait certainement pas partie.
Quel que soit l'art, mais est-ce que ça varie aussi suivant le moment où il fait l'art, c'est-à-dire au début de son activité quand il est dans une ascension sociale, et puis une fois qu'il est bien installé entre son village et Rome où il travaille, et que vous le décrivez à un moment, il est plus vraiment, enfin, je caricature peut-être, il est moins artiste que chef d'entreprise, et pourtant il fait toujours de la sculpture.
Oui, mais en fait, les circonstances les circonstances dans lesquelles on crée n'ont pas grand-chose à voir avec pourquoi on fait quelque chose d'artistique. Mimo il passe par des périodes où voilà, il commence et il se dit « je vais en vivre », mais en fait, il a un talent pour ça, donc ce n'est pas lié nécessairement, ce n'est pas juste lié sa démarche au fait de gagner de l'argent à son niveau, au niveau où il pratique. À l'inverse, même quand il devient plus chef d'entreprise, ça ne veut pas dire que son geste est perdu, ça ne veut pas dire qu'il est corrompu, c'est quelque chose qui ne se perd pas, je veux dire, on peut le laisser de côté, on peut l'oublier, oui, mais au fond, il y a quelque chose de très pur dans la démarche artistique, et très beau et de magnifique, puisque Léonore et moi, on y a consacré nos vies, en plus Léonore fait de la musique, ce qui me frustre beaucoup, parce que moi je suis nul en musique.
Alors, on voit quand même qu'il y a un manche de guitare qui dépasse derrière vous.
Hein. Ouais, mais si j'en joue, moi j'ai entendu Léonore jouer, je ne joue pas comme elle. Hein. Mais en tout cas, au cœur de cette démarche, il y a quelque chose qui est très personnel, qui est en nous, et je pense que ni Léonore ni moi, on s'est levé le matin en se disant « chouette, je vais gagner du fric », ou à l'inverse, d'ailleurs, « mon Dieu, je ne vais jamais en vivre, sinon on n'aurait même pas commencé ». Donc en fait, je tiens à dire qu'il y a les circonstances, mais il y a aussi ce noyau qui est très précieux et qui est brûlant et qui ne change jamais.
Pour les personnes qui seront là demain à la rencontre de Franck Courtès, on reprendra ce que vient de dire Jean-Baptiste Andrea, puisqu'il en est question aussi avec quelqu'un qui était photographe et qui est tombé dans la pauvreté pour devenir écrivain. Donc on verra comment ça dialogue cela. Léonore, aussi, je vous ai proposé, je vous remercie de lire un extrait. Donc ici, on est voilà, dans l'Italie du début du 18e. Et Giulietta, qui était celle qui enseignait à Ilaria le violon, bah, vous l'avez compris, à un moment, elle part et elle a la chance, Ilaria, d'être celle qui va recevoir le violon de Giulietta. Et parmi les nombreux coups de foudre de votre roman, en voici donc un. Et je précise juste que le Antonio dont il va être question à la fin de l'extrait, c'est Antonio Vivaldi.
Le violon n'a pas été joué depuis plusieurs jours, il est complètement désaccordé. Elle s'applique, vérifie chaque quinte plusieurs fois, puis entame une gamme. De la corde sol à l'aigu, elle parcourt sur la touche toute la tessiture de l'instrument. La sensation des cordes sous ses doigts n'est pas si différente de celle de son violon précédent, leur tension à peine moindre. Non, ce qui la saisit, c'est le son. Le son, quand elle commence le largo d'une sonate d'Antonio, elle démarre chaque séance de travail par cette pièce, une façon de se concentrer aussitôt. Aujourd'hui, le largo sonne autrement. Ce sont pourtant les mêmes bras, les mêmes gestes, au millimètre près, sans aucun compas. Il ne s'agit pas d'une nouvelle manière de jouer, de vibrer, de modeler le son. Non, il s'agit du violon. Sa voix à lui, qui se mêle à son archer à elle. Et ce largo, territoire qu'elle arpente chaque jour, connaissant chaque note, retournement, accord, liaison et soupir, devient un autre lieu, une chapelle, dalle de pierre et marqueterie de marbre coloré. Chapelle perdue sur la colline, beauté inattendue, dans la verdure nimbée d'une lumière chatoyante. Quand Ilaria y entre timidement, soudain l'invité d'un endroit qu'elle croyait connaître, quand après les premières mesures elle prend de l'assurance, la chapelle devient un lieu-dit de son esprit dans lequel elle pourra revenir à sa guise. Un espace intérieur qu'elle découvre et son imagination grandit d'autant. Elle ne savait pas que son corps était capable d'émettre une telle sonorité. Avant, son imaginaire la guidait, maintenant, c'est le violon. Elle se souvient alors des mots d'Antonio, un monde qui s'ouvre, ça lui coupe le souffle, le même l'argot, les mêmes cordes, cette même salle des instruments dont elle connaît si bien l'acoustique, et pourtant, tout est nouveau. Antonio, appuyé contre la porte dans le couloir, écoute l'émerveillement de son élève. Les yeux écarquillés devant la beauté, il entend ce son nouveau, il sent la promesse qu'il porte. Chemin après chemin, la route se fait de plus en plus longue, tortueuse. Elle n'en finit pas de finir, mais elle est parcourue. Dans sa main, une partition. Il attend, avant de frapper et d'ouvrir la porte, il retient quelques instants encore l'intrusion qu'il va commettre. Et quand il entre, il la voit qui se retourne, les yeux soudain perdus, heurtés par la brusque réalité. Il s'excuse. « Pardon, il a allié alors ce violon. » Elle n'a pas de mots, ne répond pas. Maladroitement, il pose sa partition sur la table, une sonate à trait. « Aurais-tu la gentillesse de recopier chaque partie séparée ?» Et il s'en va, se maudissant de ne pas avoir su la laisser seule dans cet espace intime et lointain.
Merci beaucoup pour la lecture qui permet aussi d'apprécier votre écriture. Quel était, c'est un passage qui est un peu à part dans ce livre, parce que c'est la description vraiment d'un coup de fou, de la manière dont c'est ressenti dans le rapport à l'instrument. Et vous, évidemment, qui êtes violoniste, vous savez combien on ne joue pas de la même manière suivant l'outil que l'on a, l'objet que l'on a en main. Quel était le défi et l'enjeu dans l'écriture d'un tel passage, puisque c'est moins ce qu'on disait avec Jean-Baptiste Andréa sur qu'est-ce qu'elle joue, puisqu'on sait que c'est de la musique d'Antonio, mais c'est le ressenti, c'est l'intériorité que vous avez voulu mettre en mots et qui n'est pas forcément facile à mettre en mots.
Oui, c'était la difficulté du livre, c'est d'écrire la musique, c'est écrire ce qu'on ressent, c'est écrire l'émotion musicale. C'était alors après en lien avec le sentiment amoureux, c'est ce grand feu qui se mêle en elle et finalement d'essayer de trouver un vocabulaire commun entre ces deux émotions, l'émotion amoureuse, l'émotion artistique, qui sont à mon avis les deux endroits où on se déplace, où on est justement dans un autre endroit qu'en nous-mêmes, où on est transporté dans un autre espace-temps, on dit le transport amoureux. Et Ilaria, elle est transportée aussi quand elle prend ce nouvel instrument qu'elle va découvrir, qui va ouvrir quelque chose dans son imaginaire, qui va déployer chez elle d'autres capacités, ça va l'emmener dans un autre lieu. Et comme je ne savais pas comment faire pour le dire, eh bien, je l'ai fait par cette image du lieu. Donc elle joue quelque chose qu'elle connaît très bien, elle joue un morceau qu'elle joue chaque jour, et pourtant, là, en jouant ce jour-là avec cet autre instrument, elle va aller ailleurs. Et cet ailleurs, c'est cette petite chapelle qu'elle découvre, une chapelle perdue dans la colline, dans laquelle elle va pouvoir revenir. Parce que justement, ce qui s'est ouvert, c'est un lieu de... c'est un lieu... Salut. C'est un lieu c'est un nouveau lieu qui existe. Avant, il n'existait pas, et maintenant, le lieu existe. Elle peut y revenir.
Comment vous avez convoqué donc la partie musicienne que vous êtes pour écrire ce roman ? Est-ce que vous avez dû poser des nouvelles questions sur votre rapport à votre interprétation, à votre musique, et puis peut-être écouter aussi autrement Vivaldi pour écrire Le Grand Feu ?
Alors j'ai réécouté beaucoup la musique de Vivaldi, oui, pour me mettre dans le bain de cette musique, de cette époque. Il y avait des choses que je connaissais déjà, je connaissais moins tous ses opéras et toute sa production vocale. Donc ça, j'ai beaucoup réécouté ces opéras. D'ailleurs, on continue d'exhumer pas mal de ses partitions, donc ça j'en ai écouté. Après, le rapport au violon, non, je ne peux pas dire que ça ait changé quelque chose, ce serait mentir. Mais ça m'a vraiment intéressée d'essayer de mettre des mots dessus, alors que justement, pour moi, l'espace de la musique, c'est l'espace qui est sans mots. C'est un espace très physique. Je joue avec mon corps. Je pense que l'émotion musicale, elle passe par d'autres canaux que celle plus intellectuelle de la recherche analytique, intellectuelle du mot. Dans la musique, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on aime la musique, parce que justement, on est en prise directe avec l'émotion. Donc là, je venais me retrouver peut-être dans cet interstice l'exercice de la musique sans mots, avec tenter par la littérature et l'évocation quand même d'en faire de la contourner, enfin en tout cas de produire ces contours pour qu'on puisse l'imaginer ou qu'on puisse imaginer cette sensation.
Et puis je vais terminer avec vous, Jean-Baptiste Andréa, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur cette sculpture qui traverse le livre, puisque si vous racontez la vie de votre personnage, il y a aussi des allers-retours avec le moment où il s'apprête à mourir, et puis une sculpture qui a traversé le temps, qui sème le trouble. Quel était aussi là le plaisir ou l'enjeu d'écrire une statue magnifique, mais qu'on ne doit pas voir, et qui trouble, puisque c'est ça qui vous a surtout intéressé, c'est le trouble qu'elle procure, qui déstabilise tout le monde, et vous aussi peut-être.
Ouais, bah, y avait une petite notion de thriller un peu métaphysique qui courait dans le livre, qui me plaisait beaucoup, qui était une chose que je n'avais pas traitée avant, qui était aussi plus romanesque, et puis finalement ça rejoint... Enfin, il y a plein de possibilités qui tournent autour de cette statue, de syndrome de Stendhal, d'émotion artistique poussée à son maximum, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de magique, est-ce que c'est du borderline fantastique, tout ça, ça nourrissait beaucoup le roman. Et puis au fond, peut-être qu'il y a, enfin bien sûr il y a une réponse, mais peut-être que cette réponse recouvre toutes ces réalités à la fois, l'émotion artistique pure et quelque chose d'inexplicable qu'on pourrait presque accorder au domaine du fantastique.
Voilà, c'est à découvrir dans votre roman Veillez sur elle, paru aux éditions L'Iconoclaste. Et puis Hilaria, elle, est à découvrir dans Le Grand Feu, votre roman Léonore de Recondo, paru aux éditions Grasset. Merci beaucoup, merci. Léonore de Recondo. Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste Andréa.
Merci beaucoup, merci Léonore.
Ciao.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Je vous signale, alors évidemment, Jean-Baptiste Andréa, son roman, il est à acheter en librairie et nous avons des librairies qui nous accompagnent pour cela. Mais vous allez pouvoir profiter de la présence de Léonore de Recondo à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Bonne suite de festival.